Chapitre 3. Le père Feuillet avait un vieil ami, Trouillot, le papetier, de l'autre côté de la rue. Une papeterie-mercerie où l'on voyait à la devanture des bonbons roses et verts dans des bocaux et des poupées en carton sans bras ni jambes. D'un trottoir à l'autre, l'un sur le pas de sa porte, l'autre dans son échoppe, ils échangeaient clignements d'yeux, hochements de tête et pantomimes variés. À certaines heures, quand le savetier était las de taper et qu'il avait, disait-il, la crampe dans les fesses, il se hélait, la feuillette de son gueuloir glapissant, Trouillot d'un mugissement de veau enroué, et ils allaient siroter un verre au comptoir voisin. Ils ne se pressaient pas de revenir. C'était de sacrés bavards. Ils se connaissaient depuis près d'un demi-siècle. Le papetier avait joué lui aussi son bout de rôle dans le grand mélodrame de 1871. On ne s'en serait pas douté à voir ce gros homme placide, une toque noire sur la tête, vêtu d'une blouse blanche, avec sa moustache grise de vieux troupier, ses yeux vagues d'un bleu pâle strié de rouge, sous lesquels les paupières faisaient les poches, ses joues flasques et luisantes, toujours en transpiration, traînant la jambe, goutteux, le souffle court, la langue lourde. Mais il n'avait rien perdu de ses illusions d'antan. Réfugié en Suisse pendant quelques années, il y avait rencontré des compagnons de diverses nations, et notamment des Russes, qu'il avait initiés aux beautés de l'anarchie fraternelle. Là-dessus, il n'était pas d'accord avec la Feuillette, qui était un vieux Français, partisan de la manière forte et de l'absolutisme dans la liberté. Pour le reste, ferme croyant l'un et l'autre dans la révolution sociale et la salante ouvrière de l'avenir. Chacun était épris d'un chef en qui il incarnait l'idéal de ce qu'il aurait voulu être. Trouillot était pour Joussier, et la Feuillette pour Coquart. Ils discutaient interminablement sur ce qui les divisait, estimant que leurs pensées communes étaient démontrées. Peu s'en fallait qu'entre deux rasades, ils ne les crussent réaliser. Des deux, le plus raisonneur était le savetier. Il croyait par raison. Du moins, il s'en flattait, car Dieu sait que sa raison était d'une espèce singulière. Elle n'eût pu chausser d'autres pieds que le sien. Cependant, moins expert en raison qu'en chaussures, il prétendait que les autres esprits se chaussassent à son pied. Le papetier, plus paresseux, ne se donnait pas la peine de démontrer sa foi. On ne démontre pas ce dont on doute. Il ne doutait point. Son optimisme perpétuel voyait les choses comme il les désirait, et il ne les voyait pas quand elles étaient autrement, ou il les oubliait. Les expériences fâcheuses glissaient sur son cuir sans y laisser de traces. Tous deux étaient de vieux enfants romanesques qui n'avaient pas le sens de la réalité. La Révolution, dont le nom seul les grisait, était pour eux une belle histoire qu'on se raconte et dont on ne sait plus très bien si elle arrivera jamais ou si elle est arrivée. Et tous deux avaient foi dans l'humanité de Dieu, par transposition de leurs habitudes héréditaires, pliées durant des siècles devant le Fils de l'homme. Inutile d'ajouter que tous deux étaient anticléricaux. Le plaisant était que le bon papetier habitait avec une nièce fort dévote qui faisait de lui ce qu'elle voulait. Cette petite femme très brune, grassouillette, aux yeux vifs, douée d'une volubilité de parole que relevait encore un fort accent de Marseille, était veuve d'un rédacteur au ministère du Commerce. Restée seule sans fortune, avec une fillette et recueillie par l'oncle, cette bourgeoise, qui avait des prétentions, n'était pas loin de croire qu'elle faisait une grâce à son parent le boutiquier en vendant à son magasin. Elle trônait avec des airs de reine déchue que, fort heureusement pour les affaires de l'oncle et pour la clientèle, tempérait son exubérance naturelle. Royaliste et cléricale, comme il convenait à une personne de sa distinction, Madame Alexandrine étalait ses sentiments avec un zèle indiscret, simulé par le malin plaisir de taquiner le vieux mécréant chez qui elle s'était installée. Elle s'était constituée la maîtresse du logis, responsable de la conscience de toute la maisonnée. Si elle ne pouvait convertir l'oncle, et elle se jurait bien de l'attraper in extremis, elle s'en donnait à cœur joie de tremper le diable dans l'eau bénite. Elle épinglait au mur des images de Notre-Dame de Lourdes et de Saint-Antoine de Padoue. Elle ornait la cheminée de fétiches peinturlurés sous des globes de verre, et, la saison venue, elle installait dans l'alcôve de sa fille une chapelle du mois de Marie avec de petites bougies bleues. On ne savait pas ce qu'il emportait dans sa dévotion agressive, d'une affection réelle pour l'oncle qu'elle souhaitait le convertir, ou de la joie qu'elle avait à l'embêter. Le brave homme, apathique et un peu endormi, laissait faire. Il ne se risquait pas à relever les provocations batailleuses de sa terrible nièce. Avec une langue si bien pendue, impossible de lutter. Avant tout, il voulait la paix. Une seule fois, il se fâcha, lorsqu'un petit Saint-Joseph tenta subrepticement de se glisser dans sa chambre au-dessus de son lit. Sur ce point, il eut gain de cause, car il faillit en avoir une attaque, et la nièce prit peur. L'expérience ne fut pas renouvelée. Pour tout le reste, il céda, affectant de ne pas voir. Cette odeur de bon Dieu lui causait bien quelque malaise, mais il ne voulait pas y penser. Au fond, il admirait sa nièce, et il éprouvait un certain plaisir à être malmené par elle. Et puis il s'accordait pour choyer la fillette, la petite reine ou reinette. Elle avait 13 ans, et elle était toujours malade. Depuis des mois, une coxalgie la tenait étendue et captive, tout un côté du corps moulé dans une gouttière, comme une petite daphnée dans son écorce. Elle avait des yeux de biche blessés et le teint décoloré des plantes privées de soleil. Une tête trop grosse, que ses cheveux blonds pâles, très fins et très tirés, faisaient paraître encore plus grosse. Mais un visage mobile et délicat, un vivant petit nez et un bon sourire enfantin. La dévotion de la mère avait pris chez l'enfant souffrante et désœuvrée un caractère exalté. Elle passait des heures à réciter son chapelet de corail que le pape avait béni, et elle s'interrompait pour le baiser avec emportement. Elle ne faisait presque rien de toute la journée. Les travaux à l'aiguille la fatiguaient. Madame Alexandrine ne lui en avait pas donné le goût. À peine si elle lisait quelques tracts insipides, quelques fades histoires miraculeuses, dont le style prétentieux et plat lui semblait la poésie même, ou les récits des crimes avec illustrations coloriées dans les journaux du dimanche que sa stupide mère lui mettait dans les mains. À peine si elle faisait quelques mailles de crochet, en remuant les lèvres, moins attentive à son ouvrage qu'à la conversation qu'elle tenait avec une sainte de ses amies, ou même avec le bon Dieu. Car il ne faut pas croire qu'il soit nécessaire d'être une Jeanne d'Arc pour avoir de ces visites. Nous en avons tous reçu. Seulement, à l'ordinaire, les visiteurs célestes nous laissent parler seuls, assis à notre foyer, et ils ne disent mot. Reinette ne songeait pas à s'en formaliser. Qui ne dit mot consent. D'ailleurs, elle avait tant à leur dire qu'à peine leur laissait-elle le temps de répondre. Elle répondait pour eux. Elle était une bavarde silencieuse. Elle tenait de sa mère la volubilité de langue, mais ce flot s'infiltrait en paroles intérieures comme un ruisseau qui disparaît sous terre. Naturellement, elle faisait partie de la conspiration contre l'oncle afin de le convertir. Elle se réjouissait de chaque pouce de la maison conquis sur l'esprit de ténèbres par les esprits de lumière. Elle cousait des médailles saintes dans les doublures d'habits du vieux, ou bien elle lui glissait dans les poches un grain de chapelet que l'oncle, pour faire plaisir à sa petite nièce, affectait de ne pas remarquer. Cette mainmise des deux dévotes sur le mangeur de prêtres causait l'indignation et la joie du savetier. Il ne tarissait pas en grosses plaisanteries sur les femmes qui portent culottes. Et il se gossait de son ami qui se laissait mettre sous la pantoufle. Il n'avait pas lieu de faire le malin, car lui-même avait été affligé pendant 20 ans d'une femme acariâtre et sobre qui le traitait de pochard et devant qui il baissait la crête. Il se gardait d'en faire mention. Le papetier, un peu honteux, se défendait mollement, professant d'une langue pâteuse une tolérance à la Kropotkine. Reinette et Emmanuel étaient amis. Depuis leur petite enfance, ils se voyaient chaque jour. Emmanuel osait rarement se glisser dans la maison. Madame Alexandrine le regardait d'un mauvais œil, comme petit-fils d'un mécréant et comme sale petit gnaf. Mais Reinette passait ses journées sur une chaise longue près de la fenêtre au rez-de-chaussée. Emmanuel tambourinait au carreau en passant, et le nez écrasé contre la vitre, il grimaçait un bonjour. En été, quand la fenêtre restait ouverte, il s'arrêtait, les bras appuyés un peu haut sur la barre de la fenêtre. Il s'imaginait que cette pose l'avantageait, que ses épaules remontées dans une attitude familière donnaient le change à sa difformité. Renette, qui n'était pas gâtée par les visites, ne songeait plus à remarquer qu'Emmanuel fût bossu. Emmanuel, qui avait peur des filles, peur et dégoût, faisait exception pour Renette. Cette petite malade, à demi pétrifiée, lui était quelque chose d'intangible et de lointain. Seulement le soir, où la belle Berthe lui baisa la bouche, et encore le jour suivant, il s'écarta de Renette avec une répulsion instinctive. Il longea la maison sans s'arrêter, baissant la tête, et il rôdait à distance, méfiant comme un chien sauvage. Puis il revint. Elle était si peu une femme. À la sortie de l'atelier, quand il passait, tâchant de se faire aussi petit que possible, au milieu des brocheuses dans leurs longues blouses de travail, telles que des chemises de nuit, ces grandes filles rieuses dont les yeux affamés vous déshabillaient en passant, il détalait vers la fenêtre de Renette. Il savait gré à son amie de ce qu'elle était infirme. Il pouvait, vis-à-vis d'elle, se donner des airs de supériorité et même de protection. Il racontait les événements de la rue et il s'y mettait en bonne place. Parfois, quand il était en veine de galanterie, il apportait à Renette, en hiver, des marrons grillés, en été, un bouquet de cerises. Elle, de son côté, lui donnait de ces bonbons multicolores qui remplissaient les deux bocaux à la devanture. Et ils regardaient ensemble les cartes postales illustrées. C'étaient d'heureux moments. Ils oubliaient tous deux le triste corps qui tenait en cage leur âme d'enfant. Mais il arrivait aussi qu'ils se missent à discuter, comme les grands, des choses politiques et de la religion. Alors ils devenaient aussi stupides que les grands. La bonne entente cessait. Elle parlait de miracles, de neuvaines ou de pieuses images bordées de dentelles en papier et de jours d'indulgence. Lui disait que c'était des bêtises et des momeries, comme il avait entendu dire à son grand-père. Quand il voulait à son tour raconter les réunions publiques où le vieux l'avait emmené, elle l'interrompait avec mépris et disait que ces gens-là étaient des soulards. La conversation s'aigrissait. Ils en venaient à parler de leurs parents. Ils se répétaient, l'un sur le compte de la mère, l'autre sur celui du grand-père, les propos injurieux du grand-père et de la mère. Puis ils parlaient d'eux-mêmes. Ils cherchaient à se dire des choses désagréables. Ils y arrivaient sans peine. Ils disaient les choses les plus grossières, mais elle savait trouver les mots les plus méchants. Alors ils s'en allaient, et quand ils revenaient, ils racontaient qu'il avait été avec d'autres filles, et qu'elles étaient jolies, et qu'ils avaient bien ri ensemble, et qu'ils devaient se retrouver le dimanche prochain. Elle ne disait rien. Elle faisait semblant de mépriser ce qu'il disait. Et brusquement, elle se mettait en rage, elle lui lançait son crochet à la tête, en lui criant de partir, et qu'elle le détestait, et elle se cachait la figure dans ses mains. Il partait, pas fier de sa victoire. Il avait envie d'écarter les petites mains maigres, de dire que ce n'était pas vrai, mais il se forçait par orgueil à ne pas revenir. Un jour, Renette fut vengée. Il était avec ses camarades d'atelier. Il ne l'aimait guère, parce qu'il se tenait en dehors d'eux et qu'il ne parlait pas, ou qu'il parlait trop bien, d'une façon naïvement prétentieuse, comme un livre, ou plutôt comme un article de journal. Il en était farci. Ce jour-là, il s'était mis à causer de la Révolution et des temps futurs. Il s'exaltait, et il était ridicule. Un camarade l'apostropha brutalement. « D'abord, toi, n'en faut plus, tu es trop laid. Dans la société future, il n'y aura plus de Bosco. On les fout à l'eau en naissant. » Cela le fit dégringoler du haut de son éloquence. Il se tut consterné. Les autres se tordaient de rire. De tout l'après-midi, il ne desserra plus les dents. Le soir, il s'en retournait chez lui. Il avait hâte d'être rentré pour se cacher dans un coin et pour souffrir seul. Olivier le rencontra. Il fut frappé de son visage terreux. « Tu as de la peine ? Pourquoi ?» Emmanuel ne voulait pas parler. Olivier insista affectueusement. Le petit persistait à se taire, mais sa mâchoire tremblait comme s'il était prêt de pleurer. Olivier le prit par le bras et l'emmena chez lui. Bien qu'il éprouvât, lui aussi, pour la laideur et pour la maladie, cette répulsion instinctive et cruelle dont ne peuvent se défendre ceux qui ne sont pas nés avec des âmes de sœurs de charité, il n'en laissait rien voir. « On t'a fait de la peine ?»« Oui. »« Qu'est-ce qu'on t'a fait ?» Le petit débonda son cœur. Il dit qu'il était laid. Il dit que ses camarades avaient dit que leur révolution n'était pas pour lui. « Elle n'est pas pour eux non plus, mon petit, ni pour nous. Ce n'est pas l'affaire d'un jour. On travaille pour ceux qui viendront après nous. » Le petit était déçu que ce fût pour si tard. « Est-ce que cela ne te fait pas plaisir de penser qu'on travaille pour donner le bonheur à des milliers de garçons comme toi, à des millions d'êtres ?» Emmanuel soupira et dit « Ce serait pourtant bon d'avoir un peu de bonheur soi-même. » « Mon petit, il ne faut pas être un ingrat. Tu vis dans la plus belle ville, dans l'époque la plus riche en merveilles. Tu n'es pas bête et tu as de bons yeux. Pense à ce qu'il y a de choses à voir et à aimer autour de soi. » Il lui en montra quelques-unes. L'enfant écoutait, hocha la tête et dit « Oui, mais on sera toujours enfermé dans cette peau. » « Mais non, tu en sortiras. » « Qu'est-ce que tu en sais ?» Le petit fut stupéfait. Le matérialisme faisait partie du credo du grand-père. Il pensait qu'il n'y avait que les calotins qui crussent à une vie éternelle. Il savait que son ami ne l'était point. Et il se demanda si Olivier parlait sérieusement. Mais Olivier, le tenant par la main, lui parla longuement de sa foi idéaliste, de l'unité de la vie sans limite, qui n'a ni commencement ni fin, et dont les milliards d'êtres et les milliards d'instants ne sont que les rayons de l'unique soleil. Mais il ne le lui disait pas sous cette forme abstraite. D'instinct, en lui parlant, il s'adaptait à la pensée de l'enfant. Les antiques légendes, les imaginations matérielles et profondes des vieilles cosmogonies lui revenaient à l'esprit. Moitié riant, moitié sérieux, il parlait de la métempsychose et de la succession des formes innombrables où l'âme coule et se filtre, comme une source qui passe de bassin en bassin. Il y mêlait des ressouvenirs chrétiens et les images du soir d'été qui les baignaient tous deux. Il était assis près de la fenêtre ouverte, le petit debout près de lui et la main dans sa main. C'était un samedi soir, les cloches sonnaient. Les premières hirondelles, revenues depuis peu, rasaient les murs des maisons. Le ciel lointain riait au-dessus de la ville, qui s'enveloppait d'ombre. L'enfant, retenant son souffle, écoutait le conte de fées que lui disait son grand ami. Et Olivier, à son tour, réchauffé par l'attention de son petit auditeur, se laissait prendre à ses propres récits. Il est, dans la vie, des secondes décisives, où, de même que s'allument tout d'un coup dans la nuit d'une grande ville les lumières électriques, s'allume dans l'âme obscure la flamme éternelle. Il suffit d'une étincelle qui jaillisse d'une autre âme et transmette à celle qui attend le feu de Prométhée. Ce soir de printemps, la tranquille parole d'Olivier alluma dans l'esprit que recelait le petit corps difforme, comme une lanterne bossuée, la lumière qui ne s'éteint plus. Au raisonnement d'Olivier, il ne comprenait rien, à peine les entendait-il. Mais ces légendes, ces images qui étaient pour Olivier de belles fables, des sortes de paraboles, en lui se faisait chair, devenait réalité. Le conte de fées s'animait, palpitait autour de lui. Et la vision qu'encadrait la fenêtre de la chambre, les âmes qui passaient dans la rue, les riches et les pauvres, et les hirondelles qui frôlaient les murs, et les chevaux harassés qui traînaient leurs fardeaux, et les pierres des maisons qui buvaient l'ombre du crépuscule, et le ciel pâlissant où mourait la lumière, tout ce monde extérieur s'imprima brusquement en lui, comme un baiser. Ce ne fut qu'un éclair. Puis cela s'éteignit. Il pensa à Renette et dit « Mais ceux qui vont à la messe, ceux qui croient au bon Dieu, c'est pourtant des toqués. » Olivier sourit. « Ils croient, dit-il, comme nous. Nous croyons tous la même chose. Seulement, ils croient moins que nous. Ce sont des gens qui, pour voir la lumière, ont besoin de fermer leurs volets et d'allumer leurs lampes. Ils mettent Dieu dans un homme. » Nous avons de meilleurs yeux, mais c'est toujours la même lumière que nous aimons. » Le petit retournait chez lui, par les rues sombres où les becs de gaz n'étaient pas encore allumés. Les paroles d'Olivier bourdonnaient dans sa tête. Il se disait qu'il est aussi cruel de se moquer des gens parce qu'ils ont de mauvais yeux que parce qu'ils sont bossus, et il pensait à Renette qui avait de jolis yeux, et il pensait qu'il les avait fait pleurer. Cela lui fut insupportable. Il revint sur ses pas. Il alla à la maison du papetier. La fenêtre était encore entr'ouverte. Il y coula doucement la tête et appela à voix basse. « Renette !» Elle ne répondit pas. « Renette, je te dis pardon. » La voix de Renette dans l'ombre dit « Méchant, je te déteste. »« Pardon, » répéta-t-il. Il se tut. Puis, dans un élan soudain, il dit plus bas encore, troublé, un peu honteux, « Renette, tu sais, je crois aussi à des bons dieux comme toi. C'est vrai ?
C'est vrai.
Il le disait surtout par générosité. Mais après l'avoir dit, il y croyait un peu. Ils restèrent sans parler. Ils ne se voyaient pas. La belle nuit dehors. Le petit infirme murmura « Il fera bon quand on sera mort. » On entendait le souffle léger de Renette. Il dit « Bonne nuit, petite grenouille. » La voix attendrie de Renette dit « Bonne nuit. » Il partit allégé. Il était content que Renette lui eût pardonné. Et tout au fond de lui, il ne déplaisait pas au petit souffre-douleur qu'une autre eût souffert par lui. Olivier était rentré dans sa retraite. Christophe ne tarda pas à l'y rejoindre. Décidément, leur place n'était pas dans le mouvement social révolutionnaire. Olivier ne pouvait pas s'enrôler avec ses combattants. Et Christophe ne le voulait pas. Olivier s'en écartait au nom des faibles opprimés. Christophe au nom des forts indépendants. Mais qu'ils se fussent retirés, celui-ci à la proue, celui-là à la poupe, ils n'en étaient pas moins sur le même bateau qui emportait l'armée des ouvriers et la société entière. Libre et sûr de sa volonté, Christophe contemplait avec un intérêt provoquant la coalition des prolétaires. Il aimait à se retremper dans la cuve populaire. Cela le détendait. Il en sortait plus gaillard et plus frais. Il continuait de voir Coquart et prenait ce repas de temps en temps chez Aurélie. Une fois là, il ne se surveillait guère. Il s'abandonnait à son humeur fantasque. Le paradoxe ne l'effrayait pas, et il trouvait un malin plaisir à pousser ses interlocuteurs jusqu'aux extrêmes conséquences de leurs principes absurdes et enragés. On ne savait jamais s'il parlait ou non sérieusement, car il se passionnait en parlant, et il finissait par oublier son intention paradoxale du début. L'artiste se laissait griser par l'ivresse des autres. En un de ces moments d'émotion esthétique, il improvisa, dans l'arrière-boutique d'Aurélie, un chant révolutionnaire qui, aussitôt répété, dès le lendemain, se répandit parmi les groupes ouvriers. Il se compromettait. La police le surveillait. Manous, qui avait des intelligences au cœur de la place, fut averti par un de ses amis, Xavier Bernard, jeune fonctionnaire de la préfecture de police, qui se mêlait de littérature et se disait toqué de la musique de Christophe, car le dilettantisme et l'esprit anarchique s'étaient glissés jusque parmi les chiens de garde de la Troisième République. « Votre Kraft est en train de jouer un vilain jeu, » lui avait dit Bernard. « Il fait le fier à bras. Nous savons ce qu'il en faut penser. Mais on ne serait pas fâché, en haut lieu, de pincer un étranger, qui plus est un Allemand, dans ses micmacs révolutionnaires. C'est le moyen classique pour déconsidérer le parti et pour y jeter les soupçons. Si ce nigaud ne fait pas attention, nous allons être obligés de l'arrêter. C'est ennuyeux. Avertissez-le. » Manous avertit Christophe. Olivier le supplia d'être prudent. Christophe ne prit pas la vie au sérieux. « Bah, dit-il, chacun sait que je ne suis pas dangereux. J'ai bien le droit de m'amuser. J'aime ces gens, ils travaillent comme moi, ils ont une foi comme moi. » À la vérité, ce n'est pas la même, nous ne sommes pas du même camp. Très bien, on se battra donc. Ce n'est pas pour me déplaire. Que veux-tu, je ne peux pas rester comme toi, recroquevillé dans ma coquille. J'étouffe chez les bourgeois. » Olivier, qui n'avait pas des poumons aussi exigeants, se trouvait bien de son logis étroit et de la calme société de ses deux amis, encore que l'une d'elles, Madame Arnaud, se consacrât maintenant aux œuvres de bienfaisance et que l'autre, Cécile, fût absorbée dans les soins de l'enfant jusqu'à ne plus parler que de lui et avec lui sur ce ton gazouillant, bêtifiant, qui tâche de se modeler sur celui de Loiselet et de muer sa chanson informe en ne parler humain. De son passage dans les milieux ouvriers, il lui était resté deux connaissances, deux indépendants comme lui. L'un, Guérin, était tapissier. Il travaillait, à sa fantaisie, d'une façon capricieuse mais adroite. Il aimait son métier. Il avait pour les objets d'art un goût naturel, développé par l'observation, le travail, les visites dans les musées. Olivier lui avait fait réparer un meuble ancien. Le travail était difficile et l'ouvrier s'en était acquitté habilement. Il y avait dépensé de la peine et du temps. Il ne réclama à Olivier qu'un modeste salaire, tant il était heureux d'avoir réussi. Olivier, s'intéressant à lui, l'interrogea sur sa vie, tâcha de savoir ce qu'il pensait du mouvement ouvrier. Guérin n'en pensait rien. Il ne s'en souciait pas. Il n'était pas de cette classe. Il n'était d'aucune classe. Il était lui. Il lisait peu. Toute sa formation intellectuelle s'était faite par les sens, l'œil, la main, le goût inné au vrai peuple de Paris. Il était un homme heureux. Le type n'en est pas rare dans la petite bourgeoisie ouvrière, qui est une des races les plus intelligentes de la nation, car elle réalise un bel équilibre du travail manuel et d'une activité saine de l'esprit. L'autre connaissance d'Olivier était d'une espèce plus originale. C'était un facteur qui se nommait Hurteloup. Bel homme, grand, les yeux clairs, petite barbe et moustache blonde, l'air ouvert et gai. Un jour qu'il apportait une lettre recommandée, il était entré dans la chambre d'Olivier. Pendant qu'Olivier signait, il faisait le tour de la bibliothèque, le nez sur les titres des volumes. « Ah ah, fit-il, vous avez les classiques. » Et il ajouta, « Moi, je collectionne les bouquins d'histoire sur la Bourgogne. »« Vous êtes bourguignon ?» demanda Olivier. « Bourguignon salé, l'épée au côté, la barbe au menton, saute bourguignon !» répondit en riant le facteur. « Je suis du pays d'Avallon. J'ai des papiers de famille qui datent de 1200 et quelques. » Olivier, intrigué, voulut en savoir davantage. Hurteloup ne demandait qu'à parler. Il appartenait en effet à une des plus vieilles familles de Bourgogne. Un de ses ancêtres était à la croisade de Philippe Auguste, un autre secrétaire d'État sous Henri II. La décadence avait commencé dès le XVIIe siècle. Au temps de la Révolution, la famille, ruinée et déchue, avait fait le plongeon dans la mare populaire. Maintenant, elle revenait à la surface par le probe travail, la vigueur physique et morale du facteur Hurteloup et sa fidélité à sa race. Son meilleur passe-temps était de réunir des documents historiques et généalogiques se rapportant aux siens ou à leur pays d'origine. À ses heures de congé, il allait aux archives copier de vieux papiers. Quand il ne les comprenait pas, il demandait l'explication à un de ses clients, chartiste ou sorbonnard. Son illustre ascendance ne lui tournait pas la tête. Il en parlait en riant, sans l'ombre de récrimination contre le mauvais sort. Il avait une gaieté insouciante et robuste qui faisait plaisir à voir. Et Olivier, le regardant, pensait au va-et-vient mystérieux de la vie des races, qui coule à plein bord pendant des siècles disparaît sous terre, puis ressurgit après avoir drainé du sol des énergies nouvelles. Le peuple lui apparaissait un réservoir immense où se perdent les fleuves du passé et d'où ressortent les fleuves de l'avenir qui, sous un autre nom, sont bien souvent les mêmes. Guérin et Hurteloup lui plaisaient, mais ils ne pouvaient lui être une société. Entre eux et lui, peu de conversation possible. Le petit Emmanuel l'occupait davantage. Il venait chez lui presque chaque soir. Depuis l'entretien magique, une révolution s'était faite chez l'enfant. Il s'était jeté dans la lecture avec une fureur de savoir. Il sortait de ses livres abruti. Il semblait moins intelligent qu'avant. Il parlait à peine. Olivier n'arrivait plus à lui arracher que des monosyllabes. Aux questions, Emmanuel répondait des âneries. Olivier se décourageait. Il tâchait de n'en rien montrer, mais il croyait qu'il s'était trompé et que le petit était tout à fait stupide. Il ne voyait pas le travail formidable d'incubation fiévreuse qui s'opérait dans cette âme. Il était un mauvais pédagogue, plus capable de jeter au hasard dans les champs les poignées de bon grain que de sarcler la terre et de creuser les sillons. La présence de Christophe ajoutait au trouble. Olivier éprouvait une gêne à exhiber son petit protégé. Il était honteux de la bêtise d'Emmanuel, qui devenait accablante quand Christophe était là. L'enfant se renfermait alors dans un mutisme farouche. Il haïssait Christophe parce qu'Olivier l'aimait. Il ne supportait pas qu'un autre eût place dans le cœur de son maître. Ni Christophe ni Olivier ne se doutaient de la frénésie d'amour et de jalousie qui rongeait cet enfant. Cependant, Christophe avait passé par là, jadis. Mais il ne se reconnaissait pas en cet être fabriqué d'un autre métal que le sien. En cet amalgame obscur des réalités malsaines, tout, l'amour et la haine, et le génie latent, rendaient un autre son. Le 1er mai approchait. Une rumeur inquiète parcourait Paris. Les matamores de la CGT contribuaient à la répandre. Leurs journaux annonçaient le grand jour arrivé, convoquaient les milices ouvrières, et lançait le mot d'épouvante qui atteint les bourgeois à l'endroit le plus sensible, au ventre, Ferry Ventrem. il les menaçait de la grève générale. Les Parisiens épeurés partaient pour la campagne, où s'approvisionnaient comme pour un siège. Christophe avait rencontré Canet dans son auto, rapportant 2 jambons et 1 sac de pommes de terre. Il était hors de lui. Il ne savait plus au juste de quel parti il était. On le voyait tour à tour vieux républicain, royaliste et révolutionnaire. Son culte de la violence était une boussole affolée dont l'aiguille sautait du nord au midi et du midi au nord. En public, il continuait de faire chorus aux rodomontades de ses amis. Mais il eut pris in petto le premier dictateur venu pour balayer le spectre rouge. Christophe riait de cette universelle poltronnerie. Il était convaincu qu'il ne se produirait rien. Olivier en était moins sûr. De sa naissance bourgeoise, il lui restait quelque chose de ce petit tremblement éternel que cause à la bourgeoisie le souvenir et l'attente de la Révolution. « Allons donc, disait Christophe, tu peux dormir tranquille. Elle n'est pas pour demain, ta Révolution. Vous en avez tous peur, la peur des coups, elle est partout. Chez les bourgeois, dans le peuple, par toute la nation, par toutes les nations d'Occident. On n'a plus assez de sang, on a peur de le perdre. » Depuis 40 ans, tout se passe en paroles. Regarde un peu votre fameuse affaire. Avez-vous assez crié « mort, sang, carnage » Oh, Cadet de Gascogne, que de salive et d'encre! Combien de gouttes de sang? Ne t'y fie pas, disait Olivier. C'est l'instinct secret qu'au premier sang versé, la bête délirera. Le masque du civilisé tombera. La brute montrera son mufle au croc féroce, et Dieu sait alors qui la pourra museler. Christophe haussa les épaules et disait que ce n'était pas pour rien que l'époque avait pour héros Cyrano le hâbleur et le poulet fanfaron Chanteclerc, les héros qui mentent. Olivier hochait la tête. Il savait qu'en France, hâbler est le commencement d'agir. Toutefois, pour le 1er mai, il ne croyait pas plus que Christophe à la Révolution. On l'avait trop annoncé et le gouvernement se tenait sur ses gardes. Il y avait lieu de croire que les stratèges de l'émeute remettraient le combat à un moment plus opportun. Dans la seconde quinzaine d'avril, Olivier eut un accès de grippe. Elle le reprenait chaque hiver à peu près vers la même date et elle réveillait une bronchite ancienne. Christophe s'installa chez lui 2 ou 3 jours. Le mal fut assez léger et passa rapidement. Mais il amena, comme à l'ordinaire, chez Olivier, une fatigue morale et physique qui persista quelque temps après que la fièvre fut tombée. Il restait au lit, étendu, pendant des heures, et il n'avait pas envie de bouger. Il regardait Christophe qui lui tournait le dos, travaillant à sa table. Christophe s'absorbait dans son travail. Quand il était là d'écrire, il se levait brusquement et il allait au piano. Il jouait non ce qu'il avait écrit, mais ce qui lui venait sous les doigts. Alors se passait un phénomène étrange. Tandis que ce qu'il écrivait était conçu dans un style qui rappelait ses œuvres antérieures, ce qu'il jouait paraissait d'un autre homme. C'était un monde au souffle rauque et déréglé. Il y avait là un égarement, une incohérence violente ou brisée, ne rappelant à rien la puissance logique qui régnait dans le reste de sa musique. On eût dit que ces improvisations irréfléchies, qui échappaient à l'œil de la conscience, qui jaillissaient de la chair plus que de la pensée, comme un cri d'animal, révélassent un déséquilibre de l'âme, un orage se préparant au fond de l'avenir. Christophe ne s'en apercevait pas. Mais Olivier écoutait, regardait Christophe, et il était vaguement inquiet. Dans son état de faiblesse, il avait une pénétration singulière, lointaine. Il apercevait des choses que nul ne remarquait. Christophe, plaquant un dernier accord, s'arrêta en sueur, hagard. Il promena autour de lui son regard encore trouble, rencontra le regard d'Olivier, se mit à rire et retourna à sa table. Olivier demanda « Qu'est-ce que c'était, Christophe ?»« Rien du tout, dit Christophe. Je remue l'eau pour attirer le poisson. »« Est-ce que tu vas écrire cela ?»« Cela ? Quoi, cela ? Ce que tu as dit. Et qu'est-ce que j'ai dit ? Je ne me souviens déjà plus. »« Mais à quoi pensais-tu ? » ?»« Je ne sais pas, dit Christophe, se passant la main sur le front. » Il se remit à écrire. Le silence retomba dans la chambre des 2 amis. Olivier continuait de regarder Christophe. Christophe sentait ce regard, et il se retourna. Les yeux d'Olivier le couvaient avec tant d'affection. Paresseux, dit-il gaiement. Olivier soupira.
Qu'as-tu ? Demanda Christophe.
Oh, Christophe, dire qu'il y a tant de choses en toi, là, près de moi, des trésors que tu donneras aux autres et dont je n'aurai pas ma part.
Es-tu fou ? Qu'est-ce qui te prend ?
Quelle sera ta vie ? Par quels dangers ? Par quelles épreuves passeras-tu encore ? Je voudrais être avec toi. Je ne verrai rien de tout cela. Je resterai stupidement en chemin.
Pour stupide, tu l'es.
Crois-tu par hasard que même si tu le voulais, je te laisserai en route ?
Tu m'oublieras, dit Olivier.
Christophe se leva et alla s'asseoir sur le lit près d'Olivier. Il lui prit les poignets, moites d'une sueur de faiblesse. Le col de la chemise s'était ouvert. On voyait la maigre poitrine, la peau frêle et tendue comme un voile qu'un souffle de vent gonfle et qui va se déchirer. Les robustes doigts de Christophe reboutonnèrent maladroitement le col. Olivier se laissait faire.
« Cher Christophe, dit-il tendrement, j'ai eu pourtant un grand bonheur dans ma vie. »«
Ah ça, qu'est-ce que ces idées ? » dit Christophe. « Tu vas aussi bien que moi. »«
Oui, dit Olivier. »«
Alors pourquoi dis-tu les sottises ?»«
J'ai tort, fit Olivier, honteux et souriant. C'est cette grippe qui m'abat. »«
Il faut se secouer. Oup, lève-toi. »«
Pas maintenant, plus tard. »
Il restait à rêver. Le lendemain, il se leva, mais ce fut pour continuer de rêvasser au coin du feu. Avril était doux et brumeux. À travers le voile tiède des brouillards argentés, les petites feuilles vertes dépliaient leurs cocons, les oiseaux invisibles chantaient le soleil caché. Olivier dévidait le fuseau de ses souvenirs. Il se revoyait enfant dans le train qui l'emportait de sa petite ville au milieu du brouillard, avec sa mère qui pleurait. Antoinette était seule à l'autre coin du wagon. De délicats profils, des paysages fins, se peignaient au fond de ses yeux. De beaux vers venaient d'eux-mêmes agencer leurs syllabes et leurs rythmes chantants. Il était près de sa table. Il n'avait qu'à étendre le bras pour prendre sa plume et noter ses visions poétiques. Mais la volonté lui manquait. Il était là. Il savait que le parfum de ses rêves s'évaporerait dès qu'il voudrait les fixer. C'était toujours ainsi. Le meilleur de lui-même ne pouvait s'exprimer. Son esprit était un vallon plein de fleurs, mais nul n'en avait l'accès. Et dès qu'on les cueillait, les fleurs se flétrissaient. À peine quelques-unes avaient pu languissamment survivre, quelques frêles nouvelles, quelques pièces de verre, qui exhalaient une haleine suave et mourante. Cette impuissance artistique avait été longtemps un des plus gros chagrins d'Olivier. Sentir tant de vie en soi que l'on ne peut pas sauver. Maintenant, il était résigné. Les fleurs n'ont pas besoin qu'on les voie pour fleurir. Elles n'en sont que plus belles dans les champs où nulle main ne les cueille. Heureux les champs en fleurs qui rêvent au soleil. De soleil, il n'y en avait guère. Mais les rêves d'Olivier n'en fleurissaient que mieux. Que d'histoires tristes, tendres, fantasques, il se raconta ces jours-là. Elles venaient on ne sait d'où, voguaient comme des nuages blancs sur un ciel d'été. Elles se fondaient dans l'air, d'autres leur succédaient. Il en était peuplé. Parfois, le ciel restait vide. Dans la lumière, Olivier s'engourdissait jusqu'au moment où de nouveau glissaient, leurs ailes éployées, les barques silencieuses du rêve. Le soir, le petit bossu venait. Olivier était si plein de ses histoires qu'il lui en conta une, souriant et absorbé. Que de fois il parlait ainsi, regardant devant lui sans que l'enfant soufflât mot. Il finissait par oublier sa présence. Christophe, qui arriva au milieu du récit, fut saisi de sa beauté et demanda à Olivier de recommencer l'histoire. Olivier s'y refusa. « Je suis comme toi, dit-il, je ne la sais déjà plus. »«
Ce n'est pas vrai, dit Christophe. Toi, tu es un diable de français qui sait toujours tout ce qu'il dit et fait. Tu n'oublies jamais rien. »«
Hélas, fit Olivier. » « Recommence alors. »«
Cela me fatigue. À quoi bon ?»
Christophe était fâché.
« Ce n'est pas bien, dit-il. À quoi te sert ta pensée ? Ce que tu as, tu le jettes. C'est perdu pour jamais. »«
Rien n'est perdu, dit Olivier. » Le petit bossu sortit de l'immobilité où il était resté pendant le récit d'Olivier. Tourné vers la fenêtre, les yeux vagues, la figure froncée, l'air hostile, sans qu'on pût deviner ce qu'il pensait. Il se leva et dit « Il fera beau demain. »«
Je parie, dit Christophe à Olivier, qu'il n'a même pas écouté. Demain, le 1er mai, continua Emmanuel, dont la figure maussade s'illuminait. C'est son histoire à lui, dit Olivier. Tu me la conteras demain.
Baliverne, dit Christophe.
Le lendemain, Christophe vint prendre Olivier pour faire une promenade dans Paris. Olivier était guéri, mais il éprouvait toujours son étrange lassitude. Il ne tenait pas à sortir, il avait une crainte vague, il n'aimait pas à se mêler à la foule. Son cœur et son esprit étaient braves, la chair était débile. Il avait peur des cohues, des bagarres, de toutes les brutalités. Il savait trop qu'il était fait pour en être victime, sans pouvoir, sans vouloir se défendre. Car il avait horreur de faire souffrir autant que de souffrir. Les corps maladifs répugnent plus que les autres à la souffrance physique, parce qu'ils la connaissent mieux, et que leur imagination la leur représente plus immédiate et plus saignante. Olivier rougissait de cette lâcheté de son corps que contredisait le stoïcisme de sa volonté, et il s'efforçait de la combattre. Mais ce matin, tout contact avec les hommes lui était pénible. Il eût voulu rester enfermé tout le jour. Christophe le semonça, le railla, voulut à tout prix qu'il sortît pour s'arracher à sa torpeur. Depuis 10 jours, il n'avait pas pris l'air. Olivier faisait mine de ne pas entendre. Christophe dit « C'est bon, je m'en vais sans toi. Je vais voir leur 1er mai. Si je ne suis pas revenu ce soir, tu te diras que je suis coffré. » Il partit. Dans l'escalier, Olivier le rejoignit. Il ne voulait pas laisser son ami aller seul. Peu de monde dans les rues. Quelques petites ouvrières fleuries d'un brin de muquet. Des ouvriers endimanchés se promenaient d'un air désœuvré. À des coins de rue, près des stations du métro, des agents par paquets se tenaient dissimulés. Les grilles du Luxembourg étaient fermées. Le temps restait toujours brumeux et tiède. Il y avait si longtemps qu'on avait vu le soleil. Les deux amis allaient au bras l'un de l'autre. Ils parlaient peu. Ils s'aimaient bien. Quelques mots évoquaient des choses intimes et passées. Devant une mairie, ils s'arrêtèrent pour regarder le baromètre qui avait une tendance à remonter. « Demain, dit Olivier, je verrai le soleil. » Ils étaient tout près de la maison de Cécile. Ils pensèrent à entrer pour embrasser l'enfant. « Non, ce sera pour le retour. » De l'autre côté de l'eau, ils commencèrent à rencontrer plus de monde. Des promeneurs paisibles, des costumes et des visages du dimanche, des badauds avec leurs enfants, des ouvriers qui flânaient. Deux ou trois portaient à la boutonnière l'églantine rouge. Ils avaient l'air inoffensifs. C'étaient des révolutionnaires qui se forçaient à l'être. On sentait chez eux un cœur optimiste qui se satisfaisait des moindres occasions de bonheur. Qu'il fît beau ou simplement passable, en ce jour de congé, ils en étaient reconnaissants. Ils ne savaient trop à qui, à tout ce qui les entourait. Ils allaient sans se presser, épanouis, admirant les bourgeons des arbres, les toilettes des petites filles qui passaient. Ils disaient avec orgueil, « Il n'y a qu'à Paris qu'on peut voir des enfants aussi bien habillés. » Christophe plaisantait le fameux mouvement prédit. « Bonnes gens, on avait de l'affection pour eux, avec un grain de mépris. » À mesure qu'ils avançaient, la foule s'épaississait. De louches figures blêmes, des gueules crapuleuses, se glissaient dans le courant, aux aguets, attendant l'heure et la proie à happer. La bourbe était remuée. À chaque pas, la rivière se faisait plus trouble. Maintenant, elle coulait opaque. Comme des bulles d'air venues du fond qui montent à la surface grasse, des voix qui s'appelaient, des coups de sifflet, des cris de camelot, perçaient le bruissement de cette multitude et en faisaient mesurer les couches amoncelées. Au bout de la rue, près du restaurant d'Aurélie, c'était un bruit d'écluse. La foule se brisait contre les barrages de police et de troupes. Devant l'obstacle, elle formait une masse pressée qui houlait, sifflait, chantait, riait, avec des remous contradictoires. Rire du peuple, seul moyen d'exprimer 1000 sentiments obscurs qui ne peuvent trouver un débouché par les mots. Cette foule n'était pas hostile. Elle ignorait ce qu'elle voulait. En attendant qu'elle le sût, elle s'amusait, à sa façon, nerveuse, brutale, sans méchanceté encore, à pousser et à être poussée, à insulter les agents ou à s'apostropher. Mais peu à peu, elle s'énervait. Ceux qui venaient par derrière, impatientés de ne rien voir, étaient d'autant plus provocants qu'ils avaient moins à risquer sous le couvert de ce bouclier humain. ceux qui étaient devant, écrasés entre ceux qui poussaient et ceux qui résistaient, s'exaspéraient d'autant plus que leur situation devenait intolérable. La force du courant qui les pressait centuplait leur propre force. Et tous, à mesure qu'ils étaient plus serrés les uns contre les autres, comme un bétail, sentaient la chaleur du troupeau qui leur pénétrait la poitrine et les reins. Il leur semblait qu'ils ne formaient qu'un bloc, et chacun était un géant briaré. Une vague de sang refluait par moments au cœur du monstre à mille têtes. Les regards se faisaient haineux et les cris meurtriers. Des individus qui se dissimulaient au troisième ou au quatrième rang commencèrent à jeter des pierres. Aux fenêtres des maisons, des familles regardaient. Elles se croyaient au spectacle. Elles excitaient la foule et attendaient, avec un petit frémissement d'impatience angoissée, que la troupe chargeât. Au milieu de ces masses compactes, à coups de genoux et de coudes, Christophe se frayait un chemin comme un coin. Olivier le suivait. Le bloc vivant s'entr'ouvrait un instant pour le laisser passer et se refermait aussitôt derrière eux. Christophe jubilait. Il avait complètement oublié que 5 minutes avant, il niait la possibilité d'un mouvement populaire. À peine avait-il mis la jambe dans le courant qu'il était happé. Étranger à cette foule française et à ses revendications, il s'y était subitement fondu. Peu lui importait ce qu'elle voulait. Il voulait. Peu lui importait où il allait respirant ce souffle de démence. Olivier suivait, entraîné, mais sans joie, lucide, ne perdant jamais la conscience de soi, mille fois plus étranger que Christophe aux passions de ce peuple qui était le sien, et emporté pourtant par elle comme une épave. La maladie qui l'avait affaibli détendait ses liens avec la vie. Qu'il se sentait loin de ces gens. Comme il était sans délire et que son esprit était libre, les plus petits détails des choses s'inscrivaient en lui. Il regardait avec délice la nuque dorée d'une fille devant lui, son cou pâle et fin. Et en même temps, l'âcre odeur qui fermentait de ses corps entassés l'écœurait. « Christophe » supplia-t-il. Christophe n'écoutait pas. « Christophe ! Hé ! Rentrons ! Tu as peur ? » dit Christophe. Il continua son chemin. Olivier, avec un sourire triste, le suivit. À quelques rangs devant eux, dans la zone dangereuse où le peuple refoulé formait comme une barre, il aperçut, juché sur le toit d'un kiosque à journaux, son ami le petit bossu. Accroché des deux mains, accroupi dans une pose incommode, il regardait en riant par-delà la muraille des troupes, et il se retournait vers la foule d'un air de triomphe. Il remarqua Olivier et lui adressa un regard rayonnant. Puis il se mit de nouveau à épier là-bas, du côté de la place, avec des yeux élargis d'espoir, attendant. Quoi donc? Ce qui devait venir. Il n'était pas le seul. Bien d'autres, autour de lui, attendaient le miracle. Et Olivier, regardant Christophe, vit que Christophe attendait aussi. Il appela l'enfant, lui cria de descendre. Emmanuel fit mine de ne pas entendre, et ne regarda plus. Il avait vu Christophe. Il était bien aise de s'exposer dans la bagarre, en partie pour montrer son courage à Olivier, en partie pour le punir de ce qu'il était avec Christophe. Cependant, il avait retrouvé dans la foule quelques-uns de leurs amis, Coquart à la barbe d'or, qui, lui, n'attendait rien que quelques bousculades, et qui, d'un œil expert, surveillait le moment où le vase allait déborder. Plus loin, la belle Berthe, qui échangeait des mots verts avec ses voisins, en se faisant ploter. Elle avait réussi à se glisser au premier rang, et elle s'enrouait à insulter les agents. Coquart s'approcha de Christophe. Christophe, en le voyant, retrouva sa gouaillerie. « Qu'est-ce que j'avais dit? Il ne se passera rien du tout. »« Savoir, dit Coquart, ne restez pas trop là. Ça ne tardera pas à se gâter. »« Quelle blague !» fit Christophe. À ce moment, les cuirassiers, lassés de recevoir des pierres, avancèrent pour déblayer les entrées de la place. Les brigades centrales marchaient devant au pas de course. Aussitôt la débandade commença. Selon le mot de l'Évangile, les premiers furent les derniers, mais ils s'appliquèrent à ne pas le rester longtemps. Pour se dédommager de leur déroute, les fuyards furieux huaient ceux qui les poursuivaient, et criaient « Assassins !» avant que le premier coup eût été porté. Berthe filait entre les rangs comme une anguille, et poussait des cris aigus. Elle rejoignit ses amis. À l'abri derrière le vaste dos de Coquart, elle reprit haleine, se serra contre Christophe, lui pinça le bras, par peur ou pour toute autre raison, décocha une œillade à Olivier et montra le poing à l'ennemi en glapissant. Coquart prit Christophe par le bras et lui dit « Allons chez Aurélie ». Il n'avait que quelques pas à faire. Avec Graillot, Berthe les y avait précédés. Christophe allait entrer, suivi par Olivier. La rue était en dos d'âne. Du trottoir, devant la crèmerie, on dominait la chaussée du haut de 5 à 6 marches. Olivier respirait, sorti du flot. Il répugna à l'idée de se retrouver dans l'atmosphère empestée du cabaret et les braillements de ses énergumènes. Il dit à Christophe « Je vais à la maison ». « Va, mon petit, » dit Christophe, « je te rejoindrai dans 1 heure. »« Ne t'expose plus, Christophe. » »« Trembleur, » fit Christophe en riant. Il entra dans la crèmerie. Olivier allait tourner l'angle de la boutique. Quelques pas encore, et il était dans une ruelle transversale qui l'éloignait de la bousculade. L'image de son petit protégé lui traversa l'esprit. Il se retourna et le chercha des yeux. Il l'aperçut à l'instant précis où Emmanuel, qui s'était laissé choir de son poste d'observation, roulait par terre, bousculé par la foule. Les fuyards passaient dessus. Les agents arrivaient. Olivier ne réfléchit point. Il sauta en bas des marches et courut au secours. Un terrassier vit le danger, les sabres dégainés. Olivier, qui tendait la main à l'enfant pour le relever, le flot brutal des agents qui les renversaient tous deux. Il cria et se précipita à son tour. Des camarades le suivirent en courant. D'autres qui étaient sur le seuil du cabaret. Puis, à leurs appels, les autres qui étaient rentrés. Les deux bandes se prirent à la gorge comme des chiens. Et les femmes restées en haut des marches ululaient. Ainsi, le petit bourgeois aristocrate déclencha le ressort de la bataille, que nul ne voulait moins que lui. Christophe, entraîné par les ouvriers, s'était jeté dans la bagarre, sans savoir qui l'avait causé. Il était à 100 lieues de penser qu'Olivier s'y trouvait mêlé. Il le croyait bien loin déjà, tout à fait à l'abri. Impossible de rien voir du combat. Chacun avait assez à faire de regarder qui l'attaquait. Olivier avait disparu dans le tourbillon, une barque qui coule au fond. Un coup de poing qui ne lui était pas destiné l'avait atteint au sein gauche. Il venait de tomber. La foule le piétinait. Christophe avait été balayé par un remous jusqu'à l'autre extrémité du champ de bataille. Il n'y apportait aucune animosité. Il se laissait pousser et poussait avec allégresse, ainsi qu'à une foire de village. Il pensait si peu à la gravité des choses qu'il eut l'idée bouffonne, empoigné par un agent à la carrure énorme et l'empoignant à bras-le-corps, de lui dire « Un tour de valse, mademoiselle !» Mais un second agent lui ayant sauté sur le dos, il se secouait comme un sanglier, et il les bourrait de coups de poing tous les deux. Il n'entendait pas se laisser prendre. L'un de ses adversaires, celui qu'il avait saisi par derrière, roula sur les pavés. L'autre furieux dégaina. Christophe vit la pointe du sabre à 2 doigts de sa poitrine. Il l'esquiva, et tordant le poignet de l'homme, il tâcha de lui arracher l'arme. Il ne comprenait plus. Jusqu'à ce moment, ce lui avait semblé un jeu. Il restait là à lutter, et il se soufflait au visage. Il n'eut pas le temps de réfléchir. Il aperçut le meurtre dans les yeux de l'autre, et le meurtre s'éveilla en lui. Il vit qu'il allait être égorgé comme un mouton. D'un brusque mouvement, il retourna le poignet et le sabre contre la poitrine de l'homme. Il enfonça. Il sentit qu'il tuait. Il tua. Et soudain, tout changea à ses yeux. Il était ivre. Il hurla. Ses cris produisirent un effet inimaginable. La foule avait flairé le sang. En un instant, elle devint une meute féroce. On tirait de tous côtés. Aux fenêtres des maisons parut le drapeau rouge, et le vieil atavisme des révolutions parisiennes fit surgir une barricade. La rue fut dépavée, des becs de gaz tordus, des arbres abattus, un omnibus renversé. On utilisa une tranchée ouverte depuis des mois pour les travaux du métropolitain. Les grilles de fonte autour des arbres, brisées en morceaux, fournirent des projectiles. Des armes sortaient des poches et du fond des maisons. En moins 1 heure, ce fut l'insurrection. Tout le quartier en état de siège. Et sur la barricade, Christophe, méconnaissable, hurlait son chant révolutionnaire que 20 voix répétaient. Olivier avait été porté chez Aurélie. Il était sans connaissance. On l'avait déposé dans l'arrière-boutique sombre, sur un lit. Au pied, le petit bossu se tenait atterré. Berthe avait eu d'abord une grosse émotion. Elle avait cru de loin que Graillot était blessé, et son premier cri, en reconnaissant Olivier, avait été « Quel bonheur! Je croyais que c'était Léopold !» Maintenant apitoyée, elle embrassait Olivier et lui soutenait la tête sur l'oreiller. Avec sa tranquillité habituelle, Aurélie avait défait les vêtements et appliquait un premier pansement. Manu Zaïman se trouvait là fort à propos, avec Canet son inséparable. Par curiosité, comme Christophe, ils étaient venus regarder la manifestation. Ils avaient assisté à la bagarre et vu tomber Olivier. Canet pleurait comme un veau, et en même temps il pensait « Que suis-je venu faire dans cette galère ?» Manus examina le blessé. Tout de suite, il le jugea perdu. Il avait de la sympathie pour Olivier, mais il n'était pas homme à s'attarder sur l'irrémédiable, et il ne s'occupa plus de lui pour songer à Christophe. Il admirait Christophe comme un cas pathologique. Il savait ses idées sur la Révolution, et il voulait l'arracher au danger stupide que Christophe courait pour une cause qui n'était pas la sienne. Le risque de se faire casser la tête dans l'échauffourée n'était pas le seul. Si Christophe était pris, tout le désignait à des représailles. On l'en avait prévenu depuis longtemps, la police le guettait. On lui ferait endosser non seulement ses sottises, mais aussi celles des autres. Xavier Bernard, que Manus venait de rencontrer rôdant parmi la foule, autant par amusement que par devoir professionnel, lui avait fait signe en passant et lui avait dit « Votre Kraft est idiot. Croiriez-vous qu'il est en train de faire le joli cœur sur la barricade? Nous ne le raterons pas cette fois. Nom de Dieu, faites-le filer. » Plus facile à dire qu'à faire. Si Christophe venait à savoir qu'Olivier mourait, il deviendrait fou furieux. Il tuerait, il serait tué. Manus dit à Bernard, « S'il ne part pas sur le champ, il est perdu. Je vais l'enlever. » « Comment ?»« Dans l'auto de Canet qui est là au coin de la rue. » « Mais pardon, pardon, » dit Canet, suffoqué. « Tu le mèneras à La Roche, » continua Manus. « Vous arriverez à temps pour l'express de Pontarlier. Tu l'emballeras pour la Suisse. »« Il ne voudra jamais. »« Il voudra. Je vais lui dire que Jeannin l'y rejoindra, qu'il est déjà parti. » Sans écouter les objections de Canet, Manus alla chercher Christophe sur la barricade. Il n'était pas fort brave. Il faisait le gros dos chaque fois qu'il entendait un coup de feu. Et il comptait les pavés sur lesquels il marchait, nombre pair ou impair, pour savoir s'il serait tué. Mais il ne recula pas. Il alla jusqu'au bout. Quand il arriva, Christophe, juché sur une roue de l'omnibus renversé, s'amusait à tirer en l'air des coups de revolver. Autour de la barricade, la tourbe de Paris, vomie des pavés, avait grossi comme l'eau sale d'un égout après une forte pluie. Les premiers combattants étaient noyés par elle. Manus héla Christophe qui lui tournait le dos. Christophe n'entendit pas. Manus grimpa vers lui, le tirant par la manche. Christophe le repoussa, faillit le faire tomber. Manus, tenace, de nouveau se hissa et cria « Jeannin !» Dans le vacarme, le reste de la phrase se perdit. Christophe se tut brusquement, laissa tomber son revolver, et, dégringolant de son échafaudage, il rejoignit Manus qui l'entraîna. « Il faut fuir, » dit Manus. « Où est Olivier ?»« Il faut fuir, » répéta Manus. « Pourquoi diable ?» dit Christophe. « Dans une heure, la barricade sera prise. Ce soir, vous serez arrêtés. » « Et qu'est-ce que j'ai fait ?»« Regardez vos mains. Allons. Votre affaire est claire. On ne vous épargnera pas. Tous vous ont reconnu. Pas un instant à perdre. » « Où est Olivier ?»« Chez lui. Je vais le rejoindre. Impossible. La police vous attend à la porte. Il m'envoie vous prévenir. Filez. » « Où voulez-vous que j'aille ?»« En Suisse. Canet vous enlève dans son auto. » « Et Olivier ?»« Nous n'avons pas le temps de causer. » « Je ne pars pas sans le voir. Vous le verrez là-bas. Il vous retrouvera demain. Il prend le premier train. Vite, je vous expliquerai. » Il empoigna Christophe. Christophe, étourdi par le bruit et par le vent de folie qui venait de souffler en lui, incapable de comprendre ce qu'il avait fait et ce qu'on demandait de lui, se laissa entraîner. Manus le prit par un bras, de l'autre main prit Canet, qui n'était pas ravi du rôle qu'on lui attribuait dans l'affaire, et l'installa dans l'auto. Le bon Canet eût été navré que Christophe fût pris, mais il eût préféré que ce fût un autre que lui qui le sauva. Manus le connaissait, et comme sa poltronnerie lui inspirait des doutes, sur le point de les quitter, au moment où l'auto s'ébrouait pour partir, Il se ravisa soudain et monta auprès d'eux. Olivier n'avait pas repris connaissance. Il n'y avait plus dans la chambre qu'Aurélie et le petit bossu. La triste chambre, sans air et sans lumière. Il faisait presque nuit. Olivier, un instant, émergea de l'abîme. Sur sa main, il sentit les lèvres et les larmes d'Emmanuel. Il sourit faiblement et mit avec effort sa main sur la tête de l'enfant. Comme sa main était lourde. Il disparut de nouveau. Près de la tête du mourant, sur l'oreiller, Aurélie avait placé un petit bouquet du 1er mai, quelques brins de muguet. Un robinet mal fermé s'égouttait dans la cour sur un seau. Des images tremblèrent une seconde au fond de la pensée comme une lumière qui va s'éteindre. Une maison de province, des glycines au mur. Un jardin où un enfant jouait. Il était couché sur une pelouse. Un jet d'eau s'égrenait dans la vasque de pierre. Une petite fille riait.